Bienvenue sur les ondes de Radio Albitsis. Bérengère vous propose une émission autour de la FASTI et de la question des sans-papiers. Une émission enregistrée le 24 juin 2021. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Albigès pour une émission avec la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous et toutes les immigrés. La FASTI dont nous allons découvrir les activités et notamment la nouvelle campagne qu'elle a lancée, où il assure la technique de cette émission, merci à lui. Si on propose une émission avec la FASTI, c'est notamment parce que la FASTI a lancé il y a désormais un peu plus d'un an une nouvelle campagne intitulée « Abrogeons le CESEDA ». Le CESEDA, pour celles et ceux qui n'en sont pas familiers et familières, et je pense qu'ils et elles sont nombreux et nombreuses, c'est le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un texte particulier qui crée une juridiction d'exception pour les sans-papiers. Un texte somme toute assez récent puisqu'il existe depuis 2005 et qui a depuis subi de nombreuses réformes, toutes plus coercitives les unes que les autres selon les analyses de nombreuses associations qui accompagnent les sans-papiers. Et c'est l'occasion, cette campagne lancée par la FASTI, de réfléchir à ce texte et de réfléchir à la manière dont sont traités étrangers et étrangères sur le territoire français. Pour nous accompagner dans cette réflexion, deux membres de la FASTI, Arthur et Lola, respectivement bénévoles et salariés de la FASTI. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, la FASTI n'est pas représentée localement, il n'y a pas d'association relevant de cette fédération là où nous sommes, dans le Tarn. Ça donne une occasion supplémentaire de présenter la FASTI, qui a évolué puisque le sigle n'a pas toujours eu la même signification. Vous allez peut-être nous l'expliquer, c'était au départ l'acronyme ASTI signifiait soutien aux travailleurs immigrés, avant de devenir de solidarité avec tous et toutes les immigrés. Est-ce que vous pourriez, Arthur et Lola, nous présenter un peu cette fédération d'associations, peut-être ce qui en sont les grandes dates et puis la manière dont elle fonctionne, les activités qu'elle mène. Je ne sais pas qui de vous, Lola ou Arthur, veut se lancer là-dedans.
Alors pour vous présenter la FASTI, en fait, c'est une fédération d'associations, comme ça a été dit, qui regroupe aujourd'hui une soixantaine d'associations. Les ASTI, donc les associations de solidarité avec toutes et tous les immigrés, des associations qui sont, donc une cinquantaine d'associations qui sont situées un peu partout en France, sauf dans le Tarn, et qui sont toutes autonomes. Voilà. Pour situer un peu quand est né notre mouvement, en fait, c'est dans les années 60, notamment autour des bidonvilles de la région parisienne, où les travailleurs immigrés vivaient dans des conditions de vie et d'hébergement, enfin, particulièrement difficiles et indignes. En fait, que les premières ASTI voient le jour. Et c'est en 1967, en fait, que les ASTI décident de se regrouper et de créer la fédération, donc la FASTI. Au niveau des dates importantes que je pourrais citer de notre mouvement, il y a l'année 1972 en fait où notre mouvement en fait à cette époque décide de mettre en place une commission immigrée au sein de son organisation. Donc en fait cette commission immigrée elle a été pensée comme un espace permettant aux étrangers qui à l'époque n'avaient pas le droit de se constituer en association jusqu'en 1981 et ils avaient l'interdiction de se constituer en association. Donc en fait c'était vraiment un espace qui s'est constitué pour permettre aux étrangers, en fait, de prendre toute leur place dans la société, d'engager des actions et de participer à la vie de la FASTI, et notamment au bureau fédéral. Donc ça, c'est une des dates qui est importante parce que la question de l'autonomie des luttes, c'est quelque chose qui guide vraiment notre mouvement, c'est une des valeurs fondamentales de notre mouvement. Il y a aussi les années 1983-1984, avec notamment les marches pour l'égalité, où notre mouvement a été très très impliqué dedans. Il y a aussi en fait une autre date qui est structurante de notre mouvement, c'est l'année 1989 en fait où lors du congrès, en fait les revendications de liberté de circulation et d'installation deviennent indissociables au sein de notre mouvement. Donc en fait depuis plus de 50 ans, notre mouvement est engagé aux côtés des personnes étrangères, donc à travers de nombreuses actions de terrain. La plupart des ASTI ont des permanences juridiques, font des cours de français, animent des groupes d'échange, de discussion, de rencontres. Elles mènent aussi des actions de sensibilisation, que ce soit en milieu scolaire, l'organisation de rencontres publiques. et des luttes pour l'égalité des droits, des luttes contre le racisme. Et donc toutes ces actions sont guidées par des valeurs partagées. Donc c'est ça qui réunit les ASSI. C'est la question de l'égalité des droits, du respect de l'auto-organisation des premiers et premières concernés, la lutte contre le racisme et les discriminations, et bien évidemment la liberté de circulation et d'installation. Donc tout au long de son histoire, en fait, notre mouvement a vraiment essayé de lier les politiques d'immigration et les politiques d'accueil, de les analyser en fait au vu des contextes dans lesquels elles étaient mises en œuvre, et de les analyser d'analyser en fait leurs impacts en lien aussi avec les rapports d'oppression qui traversent notre société. Et c'est comme ça qu'au fil des années, la FASTI en fait a adopté un regard et un positionnement anticapitaliste, anticolonialiste, féministe et antiraciste. Le rôle de la fédération, c'est bien évidemment d'animer ce mouvement des ASSI, en ouvrant des espaces d'échange entre les militants, mais aussi en proposant des formations et de travailler à la construction de projets collectifs. En fait, voilà, on est une association qui est d'éducation populaire où on pense que les projets doivent être faits ensemble, et donc on essaye d'avoir vraiment une horizontalité au sein de notre mouvement. Et le rôle de la fédération, c'est aussi bien évidemment de porter nationalement en fait les problématiques qui vont être rencontrées sur le terrain et les revendications du mouvement. Donc c'est dans ce sens-là aussi où on lance des campagnes comme la campagne pour l'abrogation du Ceseda, et on participe aussi également à de nombreux collectifs, on travaille beaucoup avec de nombreux partenaires pour faire avancer aussi nos revendications et une société d'égalité des droits.
Merci beaucoup pour cette présentation de la FASTI. Avant de rentrer dans la campagne qui vous occupe actuellement, abrogeons le Ceseda, peut-être nous dire comment l'une et l'autre, vous avez rencontré la FASTI, comment vous l'avez découverte. Je rappelle que vous n'avez pas le même statut au sein de la FASTI. Lola, tu es salarié et Arthur, tu es bénévole. Je ne sais pas, peut-être Arthur, tu veux nous raconter comment tu as découvert la FASTI et comment tu t'y impliques.
Oui, tout à fait. Moi, en fait, je suis originaire du 20e arrondissement à Paris. Et donc, j'ai rencontré d'abord la FASTI dans des collectifs, un collectif antiraciste et un collectif de soutien aux migrants et aux migrantes qui s'est monté à l'échelle de l'arrondissement et qui, en fait, à chaque fois, je croisais la FASTI ou sinon les réunions même se tenaient dans ces murs. Et de même, au même moment où je commençais aussi à essayer de lutter aux côtés des personnes sans papier, pareil au niveau de mon quartier, il y a un collectif de sans papier du 20e arrondissement qui s'est monté et qui aussi s'est monté en lien et avec le soutien de la FASTI. Et donc de nouveau je me suis retrouvé à régulièrement aller dans ces bureaux. Et donc après moi quand j'ai voulu refaire, parce qu'en fait j'avais déjà fait dans le cadre d'autres associations dans mon quartier des cours de français auparavant. Et c'est vrai que ce qui m'avait pas mal manqué, enfin une des frustrations que j'avais eues, c'est que c'était souvent découplé pour différentes raisons. Enfin, il n'y avait pas de perspective politique, on va dire, claire des associations. Il y avait, on veut de l'action dans les foyers ou des choses comme ça, mais on n'avait pas, l'association ne se positionnait pas. Et du coup, il n'y avait pas non plus de réflexion plus générale partagée sur le sens de ce qu'on faisait, aussi ce contre quoi on luttait, avec qui on luttait. Et du coup, moi, quand j'ai retrouvé la FASTI par ces différents collectifs ou ces mobilisations de quartier, justement sur des questions de lutte pour les droits des personnes étrangères ou sans papier, ça m'a beaucoup parlé. Donc après, c'est là où je suis allé les voir en disant, moi, j'aimerais refaire des cours de français, j'aimerais aussi faire des permanences d'accès aux droits, mais voilà, dans un cadre qui pense un peu ces activités avec un... en lien en fait avec notre engagement politique. Et donc c'est vrai que donc au début je suis arrivé comme ça à la FASTI, j'ai commencé à refaire des cours de français, puis aussi à tenir des permanences pour les personnes qui veulent faire des dossiers pour la préfecture ou tout type de problème que les personnes sans papier du quartier pouvaient rencontrer. Et donc j'ai beaucoup appris forcément dans ces cadres là et après j'ai aussi commencé à participer à des groupes de travail qui sont mis en place au sein de la FASTI, donc là qui regroupe les personnes de différentes ASSI en France, et notamment donc ce groupe sur le Ceseda qui a abouti à la campagne et que j'ai rejoint. Ça fait donc 5-6 ans que j'ai rejoint la FASTI à Paris, et donc il y a 2 ans à peu près, j'ai plus trop les dates en tête, mais voilà, il y avait déjà des discussions en interne. Il y a ce groupe qui s'est monté avec des volontaires de différentes ASSI, on a commencé à réfléchir, à essayer de rédiger un argumentaire pour finalement aboutir à cette campagne.
Merci. Lola, peut-être ?
Oui, alors moi, mon entrée à ma rencontre avec la fastie, c'est d'abord la rencontre avec une astie. Voilà, je vivais en Normandie et donc j'ai rencontré l'astie de Caen, avec laquelle j'ai commencé à mener des actions, donc notamment participer aux permanences juridiques et d'autres mobilisations. Et c'est ce qui m'a amené aussi dans la poursuite de mes études à avoir envie de me spécialiser sur les questions de migration, de genre. Et donc je suis arrivée à Paris. Et dans la suite de voilà dans la suite de mes études et de mon entrée dans la vie professionnelle, j'ai pensé à la fastie parce que je me reconnaissais dans les valeurs qui étaient portées par la fastie. Donc voilà, c'est un travail, mais c'est aussi un choix d'être à la fastie pour ce qu'elle défend, pour son approche des migrations. Voilà.
Merci. Merci à l'un et à l'autre. Vous avez souligné la perspective et la réflexion politique que poursuit la FASTI à travers l'accompagnement qu'elle assure des sans-papiers. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit la campagne Abrogeons le CESEDA, issue d'un groupe de travail, tu l'as souligné Arthur. On va peut-être il y a un gros matériel qui a été produit par la FASTI pour accompagner cette campagne, avec notamment une brochure qui est à la fois synthétique et très complète, et puis aussi une vidéo de campagne. Je vous propose que pour introduire la présentation de cette campagne, on écoute la bande-son de cette vidéo.
Vous connaissez sans doute le Code civil ou le Code du travail, mais avez-vous déjà entendu parler du CESEDA? Il s'agit du Code qui détermine, de façon toujours plus restrictive, les critères d'entrée et de séjour des personnes étrangères en France. Véritable code d'exception, le CESEDA est le seul à cibler une catégorie de personnes en particulier, les étrangères et les étrangers. Il est donc par essence discriminatoire et inscrit dans la loi l'inégalité entre les personnes françaises et étrangères. Le CESEDA morcelle la vie des personnes en les réduisant à une fonction, à un rôle ou une facette de leur identité. On dénombre aujourd'hui plus de 50 titres de séjour différents. En catégorisant, en hiérarchisant, en essentialisant ainsi les personnes, le CESEDA est en réalité une véritable machine à trier les étrangères et les étrangers. Ce tri s'opère au gré des besoins idéologiques et économiques et vient ainsi en appui au système raciste et capitaliste qui façonne notre société. Le CESEDA crée également une catégorie de personnes dont l'existence est niée, les personnes sans papier. Exclues des droits sociaux les plus fondamentaux, celles-ci sont en proie à la précarité, à l'exploitation, à la violence et aux inégalités. Aujourd'hui, il est communément admis que le seul fait d'être étrangère ou étranger puisse donner lieu à une limitation, voire une privation de droits, mais également à des traitements dérogatoires et indignes. Tout cela ne vous choque pas? L'abrogation du CESEDA est un pas indispensable dans la lutte pour l'égalité des droits. Il ne pourra y avoir d'égalité face à la justice, au logement, à la santé ou au travail, aussi longtemps qu'un code discriminera sur la seule base de la nationalité. Aucune loi discriminatoire pour les personnes étrangères. Ensemble, abrogeons le CESEDA.
Voilà, c'était la bande-son de la vidéo de campagne Abrogeons le CESEDA lancée par la FASTI. Alors, ça n'est pas perceptible à la radio, mais c'est aussi une vidéo extrêmement visuelle, hein, dans cette perspective d'éducation populaire dont a parlé Lola. Nous sommes avec Arthur et Lola, deux membres de la FASTI, respectivement bénévoles et salariés, pour parler de cette campagne Abrogeons le CESEDA. Il est sans doute nécessaire avant tout de présenter ce CESEDA, ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et étrangères et du droit d'asile, entré en vigueur, je le rappelais en introduction, en 2005. Lola, Arthur, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il y avait avant le CESEDA, pourquoi la mise en place de ce texte, et quelles en sont, selon vous, les conséquences concrètes? Arthur, Lola, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur la présentation du CESEDA.
Je crois que je vais commencer sur juste un petit rappel historique de ce qu'il y avait avant. Alors, c'est vrai que dans l'argumentaire, on remonte aussi au code noir, au code de l'indigénat qui à un moment avait permis l'exploitation des personnes dans le cadre de l'esclavage, de la colonisation et donc de traiter d'autres personnes de façon, on va dire, non dégradante, mais en plus de les traiter comme des objets, des biens. Et le CESEDA, en fait, il s'inscrit plus dans une histoire, enfin, plus précisément dans une histoire plus récente qui est celle, tu l'as dit en introduction, de la définition d'un étranger et qui est directement liée à la définition d'un Français et d'une Française dans la loi. Et ça, finalement, c'est quelque chose d'assez récent. C'est la première loi qui définit les nationaux français. Elle date de 1889, donc même pas 150 ans. Et 4 ans plus tard, il y a la première loi qui vient définir ce que c'est qu'une personne étrangère, dans le but, bien sûr, enfin déjà de plus la contrôler et la réprimer, c'est-à-dire que cette loi de 1894 déjà oblige les personnes étrangères à s'enregistrer quand elles arrivent dans un territoire et à s'enregistrer à chaque déplacement. Et donc en fait, l'article 1 du CESEDA, il définit une personne étrangère. Et donc le CESEDA, donc comme tu disais, il est assez récent. Et en fait, il vient rassembler tout un tas de directives, de circulaires qui avaient été passées depuis 1945 pour organiser donc le contrôle des personnes étrangères en France, que ce soit les critères d'attribution des titres de séjour, les critères de régularisation, mais aussi l'aspect répressif, donc aussi leur enfermement ou les modalités de leur expulsion. Et donc, oui, voilà, enfin, le CESEDA, c'est vraiment quelque chose qui est dans cette histoire de répression des personnes étrangères en France, de contrôle d'abord des personnes qui étaient... c'est quelque chose qu'on disait aussi dans l'argumentaire, mais donc en 1889, quand les premières lois qui ciblent les personnes étrangères sont passées, à cette époque-là, la plupart des étrangers en France sont des Italiens, des Italiennes, des personnes d'Europe du Sud qui viennent travailler et qui sont d'ailleurs à l'époque également victimes de racisme, à la fois de la part des institutions, mais aussi dans la société. Et cette figure va évoluer avec, à partir dans les années 30, il y a de nouveau des lois très répressives, très exigeantes vis-à-vis des étrangers qui sont passées. Elles vont être en partie reprises dans l'ordonnance de 45, qui va être une première tentative par l'État français de rassembler ces différents textes dans un même texte. Et c'est surtout, le CESEDA, ça marque vraiment quand même la codification, le regroupement de tous ces textes et de toutes ces mesures dans un même code. Qui visent à, comme son nom l'indique, à contrôler les étrangers, les personnes étrangères en France depuis leur entrée et leur séjour, donc leurs conditions de travail, leurs conditions de vie au quotidien, et également jusqu'à leur enfermement et leur expulsion pour celles et ceux qui ne rentreraient pas donc, dans les critères définis de séjour légal pour les personnes étrangères.
Merci Arthur. Vous soulignez dans l'analyse que vous faites du CESEDA qu'il participe du racisme institutionnel et la fastidie décrit ce texte comme l'une des facettes de l'endocolonialisme. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser ces notions que vous faites intervenir pour analyser le CESEDA et en dégager un peu le substrat idéologique ?
En fait, dans cette campagne, vraiment, ce qu'on a voulu, c'était vraiment montrer les logiques en fait idéologiques qui sous-tendent ce code des personnes étrangères, et plutôt que de faire une analyse juridique, vraiment le remettre dans une perspective historique et idéologique. Et donc, ce qu'on a essayé de faire à travers cette campagne, c'est de montrer en fait comment le CESEDA s'inscrit dans une logique coloniale, et de montrer la filiation, comme le disait Arthur tout à l'heure, entre le CESEDA, le code noir et le code de l'indigénat. Donc, avant toute chose, c'est important pour nous de préciser qu'en fait, ces trois codes, ils sont de nature différente. Ils ont eu des impacts différents sur les personnes qui sont concernées. Bon, par exemple, le code noir définissait les esclaves comme des biens meubles. Le code de l'indigénat, lui, définissait les personnes indigènes comme des sujets, donc libres mais limités dans l'exercice de leur liberté. Et le CESEDA, lui, définit pas le statut des personnes étrangères, mais organise leur entrée et leur séjour, leurs droits sur le sol français. En fait, ce qu'on a essayé de montrer vraiment, c'est comment ces trois codes s'inscrivent dans une même lignée, dans le sens où ils vont refléter tous les trois une continuité historique et idéologique, depuis l'essor du capitalisme et la mise en place d'une politique coloniale, et de montrer comment en fait ils ont permis tous les trois d'organiser une gestion spécifique de certaines populations, à la fois dans une logique utilitariste et aussi pour permettre l'installation et l'expansion du modèle capitaliste. Donc ces trois codes, en fait, comme on l'a dit, ils participent à légitimer et à normaliser le fait qu'une partie de la population soit traitée comme des êtres de non-droit ou en tout cas des êtres de sous-droit. Et donc c'est pour ça que nous pensons que le CESEDA, en fait, c'est une des facettes de l'endocolonialisme actuel. Donc ce qu'on entend par endocolonialisme, en fait, c'est le fait que des méthodes coloniales, et plus globalement, en fait, des logiques coloniales, vont être utilisées aujourd'hui encore dans les politiques publiques, mises en place à l'intérieur même du territoire national. Donc pour donner quelques exemples un peu de comment ça se traduit dans le CESEDA, c'est par exemple, on va avoir des dispositions qui vont être héritées du code de l'indigénat. Donc, par exemple, l'enfermement administratif des personnes étrangères aujourd'hui, qui est issu en fait de l'internement administratif des indigènes. L'expulsion aussi, les expulsions des personnes étrangères en situation irrégulière qui rappellent la déportation des indigènes indésirables, que ce soit en colonie en Corse ou dans les colonies françaises. Ça se traduit aussi par le contrôle des corps et des esprits qui est prévu par le CESEDA et qui fait écho à la période coloniale. Donc, par exemple, le contrôle des corps, en fait, on voit que ça passe par l'institution policière, que les personnes étrangères sont régulièrement confrontées à l'institution policière, que ce soit pour le contrôle du droit au séjour, et qu'en fait, ces rapports à la police, en fait, ils rappellent, alors voilà, on va se référer à plusieurs chercheurs, mais que voilà, que ça rappelle en fait la prégnance d'un prisme mémorial de la scène coloniale, en fait, où les étrangers des anciennes colonies françaises vont en fait être toujours contrôlés par la police, se confrontent régulièrement à cette institution. Et il y a le contrôle des corps, mais il y a aussi le contrôle des esprits, en fait. Et là, si on analyse en fait la politique d'intégration, on voit que ce qu'elle donne lieu en fait à de nombreuses obligations qui vont être inscrites dans le CESEDA et qui sont pour nous un prolongement en fait de la mission civilisatrice de l'époque coloniale. On définit les personnes indigènes d'hier et les personnes étrangères aujourd'hui avec un déficit permanent de civilisation, et donc elles sont toujours soumises à des injonctions d'intégration, mais tout en étant privées des moyens de la construire. Et donc ça se matérialise par exemple pour les personnes étrangères avec l'obligation de signer un contrat d'intégration républicain avec toute une formation aux valeurs de la République, à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, à la laïcité, comme si en fait les personnes étrangères n'étaient pas sensibles à ces questions-là et qu'il y avait besoin de les civiliser. Et cette logique coloniale, elle se voit aussi à travers des dispositions spécifiques en fait qui vont être contenues dans le CESEDA par rapport aux territoires d'outre-mer en fait. C'est-à-dire que le CESEDA en fait, il comporte de nombreuses dispositions spécifiques liées à ces territoires et qui ont des effets très concrets en fait sur les personnes étrangères. Donc c'est le cas notamment pour Mayotte et en Guyane. Donc ça peut être par exemple l'absence de droit. Donc par exemple à Mayotte en fait pour les personnes qui sont demandeuses d'asile. Les conditions matérielles d'accueil, donc tout ce qui est hébergement n'est pas prévu en fait. Ça va être des droits au rabais. Il y a des mesures d'éloignement et des recours en fait qui sont très restrictifs dans plusieurs territoires d'outre-mer. Et ça va être les personnes étrangères qui habitent en outre-mer subissent donc vraiment une double discrimination, à la fois liée à leur statut d'étranger et à la fois liées à leur lieu de résidence. Par exemple, à Mayotte, il y a aussi un titre de séjour qui est valable qu'à Mayotte, et les personnes ne peuvent pas venir en métropole avec. Donc voilà, c'est plein de dérogations, de dispositifs qui rappellent vraiment, voilà, qui s'inscrivent selon nous dans une logique coloniale.
Merci Lola pour les éclairages sur cette notion d'endocolonialisme. Peut-être Arthur, donc, nous indiquer en quoi le CESEDA relève de ce que vous appelez à la fastie du racisme institutionnel.
Je vais essayer en quelques mots, mais c'est sûr que ça va passer à la suite de ce que vient d'expliquer Lola. En fait, nous, on considère à la fastie que les institutions en France, elles sont porteuses de ce qu'on appelle un racisme institutionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas juste être des individus qui seraient racistes, qui agiraient de façon, des préjugés racistes, et voilà, et qu'il y a bien quelque chose de systémique qui est à la fois donc, dans des lois, comme certaines dispositions du CESEDA, mais aussi dans les discours et dans les pratiques qui sont derrière, légitimées par ces lois et par ces institutions, qui organisent la discrimination et le traitement dérogatoire de toute une partie de la population. Donc c'est aussi une des choses qu'on dit, c'est qu'en fait finalement la discrimination des personnes étrangères, dans la mesure où elle cible les personnes racisées, elle va aussi impacter tout un tas de personnes qui ne sont pas étrangères, qui sont françaises, mais qui sont racisées, Et donc, en fait, ouais, le racisme institutionnel, il ne se limite pas du tout aux personnes étrangères, mais il touche en fait toutes les personnes racisées en France. Donc là, Lola parlait bien, en fait, dans une histoire de contrôle de police, à partir du moment où le CZA légitime le fait qu'il y ait des contrôles au faciès pour pouvoir établir si la personne a les bons papiers ou non, étant donné qu'il y a un droit, enfin la police a le droit de vérifier la régularité du séjour, elle va cibler les personnes qu'elle va préjugées être étrangères et donc les personnes racisées. Et donc, de fait, elle va aussi cibler dans ses contrôles tout un tas de personnes qui ne sont pas étrangères, en plus de cibler des personnes qui sont en situation régulière. Et donc, il y a vraiment un traitement dérogatoire d'une partie de la population qui, c'est ce que disait Lola, constitue comme inférieure. Et du coup, nous, notre position sur ce racisme institutionnel, c'est bien de dire que c'est quelque chose qui est systémique, qui est dans l'État français, qui est à la fois des discours de personnel politique qui vont justifier derrière des pratiques des agents, que ce soit au guichet, que ce soit dans la rue, donc on disait avec les contrôles de police, mais voilà, à plein de niveaux. Et en retour, enfin, c'est aussi des dispositions, donc voilà, dans certaines lois, bon, on a beaucoup parlé en France de la loi, par exemple, sur le foulard, enfin, pour l'interdiction du foulard dans l'espace public. Typiquement, voilà, ce sont des lois qui ciblent une partie de la population, et donc le fait que là, c'est les législateurs qui donnent une légitimité à un racisme derrière de la population et des agents de l'État pour discriminer ces personnes en les traitant comme non moins françaises. Là, ça rejoint un peu ce que disait Lola sur le fait que c'est des personnes qui sont toujours soupçonnées d'être non pas assez françaises et qui devront toujours devoir encore plus prouver leur bonne intégration ou le fait qu'elles... le fait qu'elles font des efforts pour s'intégrer. Et donc voilà, l'idée qu'on a derrière le racisme institutionnel, c'est qu'il y a bien un problème de fond, enfin qui est lié du coup à cette histoire coloniale qui est encore présente dans l'État français, et que c'est pour ça qu'il faut aussi combattre à ces différents niveaux ce racisme institutionnel pour donc c'est pas juste une question juste une question de loi, ni juste une question de pratique, et que tout ça est bien lié.
Merci beaucoup. Je rappelle donc qu'on réalise une émission avec la FASTI sur la campagne qu'elle a lancée abrogeant le CESEDA, et qu'on est avec deux membres de la FASTI, Arthur et Lola. On voit bien avec la présentation que vous faites du CESEDA combien cette campagne oblige à une réflexion d'ordre politique sur le traitement réservé par la France aux étrangers et étrangères. C'est peut-être l'un des grands mérites de cette campagne. Vous soulignez dans la présentation que vous faites de cette campagne abrogeant le CESEDA qu'elle permet aussi de ne plus être sur la défensive, de renouveler les imaginaires et d'imaginer un autre modèle de société. Est-ce que vous pourriez nous préciser, Arthur et Lola, dans quel esprit la FASTI a mis en place cette campagne et ce qu'elle en espère.
Donc c'est vrai que, comme je disais, il y avait ce groupe de travail et fait des discussions déjà internes à la FASTI. Une des origines de cette campagne, c'est des frustrations qui naissent dans nos activités quotidiennes. Donc on parlait notamment des permanences d'accès juridique. Et là, je l'ai rejoint assez récemment, comme je disais, à la FASTI, mais déjà, on voit que en fait, nos marges de manœuvre, elles diminuent à chaque réforme du CESEDA, justement, ou à chaque circulaire du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'on a à la fois des critères de régularisation qui sont de plus en plus restreints, donc on est obligé en fait de plus en plus de dire aux gens de dire aux gens finalement que les possibilités de régularisation sont impliquent de rester encore plus longtemps sans papier, de prendre encore plus de risques et tout ça, mais aussi que même nos capacités, on va dire sur le plan juridique, de faire des recours et de lutter un petit peu pour essayer de faire avancer des dossiers ou de se battre sur le plan légal ou se réduisent énormément. Il y a plein de moments dans une des permanences d'accès juridique où on a l'impression d'être complètement impuissant étant donné qu'il y a les critères ont tellement été verrouillés sont devenus de plus en plus restrictifs que les trois quarts des personnes qu'on reçoit, il n'y a quasiment aucune perspective de régularisation qu'on peut leur proposer. Donc il y avait vraiment cette frustration d'avoir la sensation qu'en fait à chaque réforme du CESEDA on perdait un peu plus de terrain et de marge de manœuvre, de capacité à permettre à des gens de lutter pour avoir leur papier. Et c'était aussi c'est en lien en fait avec ce qui se passe autour. C'est-à-dire, moi aussi je suis impliqué dans un collectif de lutte contre les centres de rétention en Île-de-France. Comme on disait, le CESEDA il organise également l'enfermement des personnes étrangères dans les centres de rétention et puis leur expulsion. Et donc ça aussi, c'est quelque chose ces dernières années qui a pris une nouvelle ampleur avec la dernière loi de 2017 qui a allongé à 3 mois la durée maximale de rétention. Donc on a de plus en plus de sans-papiers qui sont enfermés 3 mois, voire parfois qui ont souvent d'ailleurs plusieurs séjours en centre de rétention avant leur expulsion et qui peuvent prendre des vraies peines d'enfermement. Et ça, ça fait partie aussi des choses qu'on voyait se mettre en place sans aucun moyen de recours légal. C'est des choses là qui sont vraiment légalisées à chaque réforme du CESEDA. Et donc, c'est décidé de, il faut quelque chose là qui arrive à inverser un petit peu cette tendance qu'on observe depuis 10-15 ans. Enfin, moi, après, à mon échelle, depuis que je me suis mis engagé sur ces questions. Et c'est vrai que c'est aussi du coup en lien avec les mouvements et les luttes de sans-papiers ces dernières années. En fait, il y a eu quelques gros mouvements, il y a une dizaine d'années, il y a eu des grandes grèves à Paris, pour notamment là, des chantiers du tramway. Il y a beaucoup de travailleurs sans-papiers qui ont obtenu donc des régularisations assez importantes, mais grâce voilà, à un mouvement de grève. Mais de nouveau, on était sur en fait des régularisations sur la base du travail. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même dans les mouvements, même dans les collectifs de sans-papiers, souvent, ces dernières années, on a été réduit à obtenir des régularisations, enfin, en tout cas les régularisations exceptionnelles, c'était sur la base du travail, et donc c'était un dossier un peu, enfin effectivement qui ne rentrait pas dans les clous, mais qu'on allait quand même réussir à faire passer grâce à un rapport de force avec la préfecture. Mais encore une fois, ça rejoignait la même idée que les possibilités, les cases, que les petites cases que laissait l'État français pour se régulariser, c'est de plus en plus petite et avec de moins en moins de place. Et récemment, il y a aussi avec la marche des solidarités ces dernières années, et donc il y a aussi la convergence et la coordination de plein de collectifs de sans-papiers en France, le retour de mots d'ordre, enfin la volonté d'avoir un retour à des mots d'ordre plus généraux, enfin des revendications plus larges de régularisation de toutes et tous, et donc un peu de, si voilà, aller à l'encontre de ces critères plus en plus restrictifs qu'on impose et qui forcément aussi divisent et morcellent les luttes, les mobilisations des personnes.
Merci Arthur, je rappelle que tu es bénévole à la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous et toutes les immigrés, pour une émission sur la campagne que vous avez lancée abrogeant le CESEDA. Lola, qui est aussi membre de la FASTI et qui est salariée, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette présentation qu'a faite Arthur de l'esprit dans lequel a été lancée la campagne de la FASTI?
Alors, Arthur a très bien décrit effectivement l'esprit de la campagne, l'envie effectivement de s'autoriser en fait à rêver, à penser des utopies et à les porter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment guidé en fait l'esprit de cette campagne. Et peut-être sur ce qu'on en espère en fait de cette campagne, c'est que nous, on l'a vraiment initié effectivement au sein de notre mouvement. Mais l'idée, c'est, enfin, comme Arthur l'a dit, on est dans une période où il y a plein de luttes, où le contexte politique est très difficile. Et l'idée de cette campagne, c'est vraiment de la faire vivre auprès des partenaires, en fait, d'ouvrir aussi des espaces d'échange pour penser sur le plus long terme, sortir le nez du guidon, comme disait Arthur. Et donc, cette campagne, en fait, dès qu'on a associé très rapidement, en fait, les collectifs de sans-papiers à cette campagne, il y a eu plusieurs liens qui se sont, enfin, il y a déjà des liens très forts qui sont tissés avec la FASTI, mais voilà, on les a invités quand on a organisé un colloque au mois de janvier sur cette campagne. Par ailleurs, on était très investis dans la marche nationale des sans-papiers qui a eu lieu en octobre dernier. Donc, ils nous ont invités aussi à l'âge de la marche pour présenter cette campagne. Et l'idée, c'est, en fait, pour nous, cette campagne, elle est complémentaire à toutes ces luttes. En fait, elle vient, alors elle se pense plutôt effectivement sur un long terme, mais il n'y a pas de mise en concurrence entre le long terme et le court terme. On pense que voilà, elles se nourrissent toutes les deux, mais l'idée, c'était vraiment, en fait, avec cette campagne, en fait, d'impulser aussi une autre vision de la société et surtout aussi d'interroger vraiment sur le fait que, sur l'existence même, en fait, d'un code destiné aux personnes étrangères, parce qu'on se rend compte aussi que donc cette campagne, elle est plutôt destinée, on va dire, aux personnes qui sont déjà sensibilisées à cette question-là, mais on se rend compte aussi qu'il y a des personnes qui ont une vision effectivement de ce que c'est être sans papier, des difficultés, mais pas forcément de la globalité du fait qu'il existe un code qui régit tout et de toutes les conséquences que ce code a pour les personnes. Donc c'était vraiment sensibiliser à ça, à l'existence de ce code, à ce qu'il produit sur les personnes et les logiques sur lesquelles il s'est construit.
Merci beaucoup Lola. Peut-être pour prolonger sur une proposition d'une société différente à quoi conduirait l'abrogation du CESEDA, je voudrais qu'on écoute une archive sonore assez ancienne puisqu'elle date de 2007, 2 ans après la mise en place du CESEDA. Au moment d'élections présidentielles, Arte Radio avait lancé un projet intitulé « L'autre gouvernement » proposant à des personnes impliquées dans des luttes de créer leur ministère. Claire Rodier, qui est juriste, impliquée dans le soutien aux sans-papiers, membre du GISTI, FASTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés et cofondatrice de Migreurope. Claire Rodier avait été érigée ministre de la Liberté et Venir. Je vous propose qu'on écoute la manière dont elle présentait son ministère. C'est une archive d'Arte Radio de 2007.
Radio Libre Circulation.
Arte Radio présente l'autre gouvernement. À la liberté d'aller et venir, Madame Claire Rodier.
En tant que ministre de la Liberté d'aller et venir, je propose qu'au cours des 5 ans qui viennent, soit progressivement instauré un nouveau régime de franchissement des frontières fondé sur un principe de fluidité. Vous aurez compris que mon projet ne concerne pas que mes citoyens et ne s'inscrit pas dans le seul cadre national. Il ne peut d'ailleurs être mis en œuvre qu'en coordination avec nos partenaires de l'Union européenne et j'entends faire de cette question le thème phare de la présidence française de l'Union en 2008. Pourquoi un ministère de la Liberté d'aller et venir? Parce que pouvoir partir, c'est parfois le seul moyen d'espérer étudier, travailler, se soigner, si dans le pays où l'on vit, on ne peut satisfaire ses besoins de base. Dans certains cas, pouvoir partir constitue même une nécessité impérieuse, lorsque c'est la seule chance de survie parce qu'on a besoin de manger ou parce que l'on a soif de démocratie. Les deux sont également indispensables à l'être humain. Mais la liberté d'aller et venir est aussi celle de revenir chez soi. Si les gouvernements qui se sont succédés en France depuis 30 ans avaient compris que plus on verrouille les frontières, plus on empêche ceux qui ont migré de prendre le chemin du retour de peur de ne plus pouvoir repartir, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, après 30 réformes de la loi sur les étrangers, la question des sans-papiers n'est toujours pas réglée. Cet objectif de fluidité des frontières n'est pas une pure utopie. La meilleure preuve, c'est que la liberté de circulation existe déjà. Aujourd'hui, une partie importante, quoique minoritaire, de la population mondiale en jouit déjà presque totalement et peut passer du territoire d'un pays à un autre en n'ayant à produire qu'un passeport et parfois un visa, formalité qui ne lui coûte que quelques dizaines d'euros. La liberté d'aller et venir est donc aussi une exigence d'égalité. Au nom de quoi serait-elle réservée à ceux qui ont la chance d'avoir la nationalité d'un pays riche? Pourquoi ceux que la malchance a fait naître du mauvais côté de la planète n'auraient-ils comme alternative que d'être choisis, s'ils correspondent aux besoins des économies occidentales, ou assignés à résidence chez eux au mépris du droit international? La première mesure qui s'impose est la suppression des visas de court séjour. Outil clé du contrôle des frontières, la politique des visas est opaque, vexatoire, injuste et bien sûr discriminatoire puisqu'elle ne s'applique pas de la même façon selon qu'on est un touriste prêt à dépenser ses devises ou qu'on constitue ce que le langage administratif appelle un risque migratoire. Vous avez déjà vu une file d'attente devant un consulat de France à Tunis ou à Bamako? Est-il normal que des grand-mères marocaines se voient refuser le visa qui leur permettrait de faire connaissance avec leur petit-fils nouveau-né en France? Ça arrive tous les jours, pourtant. Et il y a plus grave. Cette politique des visas est aussi meurtrière. Plus de 6000 personnes qui n'avaient aucune chance d'obtenir le précieux sésame sont mortes en 2006 entre la côte mauritanienne et les Canaries en tentant de passer illégalement en Europe. Croyez-vous qu'en édifiant toujours plus de murs, on empêchera la volonté farouche des jeunes Africains en quête d'une vie meilleure de risquer la mortelle traversée? Non, bien sûr. Car les solutions ne passent pas par la militarisation des frontières. Il faut une autre conception des rapports entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire que nos sociétés acceptent de remettre en cause certains dogmes, comme le caractère indispensable de la croissance, par exemple, ou encore qu'elles renoncent à des habitudes de consommation qui mettent en jeu l'équilibre environnemental de la planète. L'ONU estime à 60 millions le nombre de personnes qui auront migré avant 2020 vers l'Afrique du Nord et l'Europe à cause de la désertification. Ça nous concerne tous, et nos visas et autres miradors n'y pourront rien. C'est pourquoi vous comprendrez que face à ces enjeux, mon ministère n'agira pas de façon isolée. Et c'est l'ensemble de l'autre gouvernement qui sera mobilisé.
Voilà, c'était une archive sonore de 2007, le projet Arte Radio « L'autre gouvernement » où l'on entendait Claire Rodier imaginer en ministre de la Liberté et Venir. On écoute cette archive sonore parce que nous discutons avec deux membres de la FASTI, Arthur et Lola, sur la campagne « Abrogeant le CESEDA ». Arthur, Lola, je vous laisse peut-être réagir à cette archive sonore, nous dire en quoi elle peut rencontrer la campagne « Abrogeant le CESEDA » qu'a lancée la FASTI il y a désormais un peu plus d'un an.
Oui, cet extrait qu'on vient d'écouter, enfin, elle nous parle, ça nous parle à la FASTI parce que c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire aussi sur la forme. Et ce qu'on pense qui est important, c'est effectivement de reprendre l'offensive des idées, d'essayer de transformer l'imaginaire collectif en imaginant d'autres sociétés, en essayant de se projeter concrètement dans qu'est-ce que ça pourrait être une autre société. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé vraiment de faire avec cette campagne CESEDA, d'avoir toute une, toute une partie un peu plus prospective ou de dire voilà, et s'il n'y avait pas de CESEDA, qu'est-ce que ça donnerait? Et sur le fond, je pense que notre campagne, elle est complémentaire, parce que j'ajouterais qu'il y a effectivement la liberté d'aller et venir, mais donc la liberté de pouvoir circuler. Et que nous, notre campagne, elle s'inscrit aussi, enfin, on l'a vu aussi comme une première concrétisation de la liberté de circuler et de s'installer aussi. Voilà, la question du droit à s'installer, ça nous semble effectivement indissociable au droit à circuler. Et c'est ça ce qu'on a voulu faire avec la campagne CESEDA, c'est de dire aussi, ben voilà, s'il n'y a plus de CESEDA, enfin, les personnes n'ont pas besoin de demander un titre de séjour, il est automatique. Et donc du coup, c'est comment on pense aussi l'installation des personnes, voilà, la nécessité de repenser la question des droits qui seraient des droits plutôt universels, des droits qui ne seraient pas liés à la nationalité, au statut administratif, mais par exemple où tout le monde pourrait avoir le droit de vote, tout le monde pourrait être éligible. Voilà, une société vraiment qui laisse la place à tout le monde, une société qui est basée sur l'égalité des droits. Donc voilà, même si évidemment on a bien conscience que abroger le CESEDA ne ferait pas advenir l'égalité, en tout cas dans les faits, qu'il y a la question du racisme qui est toujours prégnante, et que du coup effectivement pour nous l'abrogation du CESEDA, c'est vraiment un premier pas vers la liberté de circulation et d'installation, mais qu'il y a aussi la nécessité en parallèle de lutter contre l'ensemble des systèmes de domination, que ce soit la logique coloniale, le racisme, le capitalisme, qui sont effectivement des systèmes d'oppression qui font qu'aggraver qui fabriquent en fait des inégalités sociales, mondiales.
Merci Lola. Arthur, peut-être une réaction à cette archive sonore et à ce ministère imaginé par Claire Rodier?
Non, comme dit Lola, c'est vrai que ça fait complètement écho à ce que nous on a voulu faire, et ça, effectivement, c'est aussi une des questions qu'on s'est beaucoup posées dans les discussions qu'on a pu avoir quand on présentait la campagne, qui s'est pas mal posée. Cette question de notre point de vue de l'internationalisme, du fait forcément quand on est dans ces luttes-là ou qu'on porte ce genre de combat, c'est qu'en fait on veut penser, on veut quand même s'affranchir dans nos actions, ou en tout cas essayer des frontières nationales et même des États-nations. Et donc c'est sûr que c'est pas une question qui peut se penser que à l'échelle de la France. Enfin, on l'a dit, les expulsions, les frontières, la fermeture des frontières, tout ça s'organise à l'échelle européenne. Et aussi, comme elle le dit dans l'extrait, c'est vrai que c'est quelque chose aussi dont on parle, de faire un peu la critique de ces espaces de libre circulation actuels qui sont vraiment très différenciés selon la classe si on est déracisé ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent circuler en Europe juste avec une carte d'identité, et d'autres qui, à l'inverse, à chaque frontière, vont être contrôlées, vont avoir le risque d'être enfermées, renvoyées dans le premier pays dans lequel elles sont rentrées. Et donc, effectivement, c'est indissociable pour nous, cette campagne, d'une réflexion plus large, qui se veut transnationale, et qui, parce que forcément, c'est des systèmes maintenant, les systèmes de papier, de contrôle des frontières, qui sont à l'échelle même mondiale, parce que même on externalise nos frontières directement de l'autre côté de la Méditerranée, enfin dans les pays de départ, et que ce soit en forçant les pays de départ à passer des lois qui criminalisent l'immigration illégale, ou même en nous construisant des camps où on peut expulser les personnes qu'on enferme ici. Et donc c'est sûr que l'idée, c'est pour ça, penser à avoir un imaginaire positif qui imagine un monde différent et qui le passe en lien avec ces différents espaces. C'est vrai que c'est pour ça aussi la FASTI fait partie de Migre-Europe, dont on parlait. Enfin, il y a cette idée de s'insérer dans différents réseaux, dans différentes relations, avec des organisations et des personnes qui sont dans différents pays pour porter cet imaginaire et cette volonté comme d'une société différente.
Merci Arthur, merci Lola. Je rappelle que vous êtes l'une et l'autre membre de la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous et toutes les immigrés. Il nous reste assez peu de temps, mais on peut peut-être terminer cette émission avec une présentation assez rapide des actions concrètes que vous menez et peut-être de l'accueil que rencontrent les actions que vous proposez autour de cette campagne « Abrogeons le CESEDA ».
Ce qu'on s'est rendu compte avec cette campagne, en fait, c'est que quand on l'a lancée, on s'est dit, bon, quelle réception va avoir la campagne. On l'a vu aussi parce que ça nous permettait de travailler des argumentaires, d'approfondir notre réflexion, et on avait l'envie, en fait, de remettre la question de la liberté de circulation et d'installation comme une revendication dans les dans voilà, dans les réseaux dans lesquels on participe, auprès de nos partenaires, et d'avoir envie, en fait, vraiment de repenser cette question-là. Mais on s'est dit, voilà, est-ce que le côté utopique, comment ça va être perçu? Et finalement, on est, je dirais, assez heureux de la réception, en fait, que cette campagne a eu. On a eu beaucoup de retours positifs de nombreuses associations, et on a été invité effectivement à présenter cette campagne dans des webinaires internes, dans des réunions de formation, par exemple au syndicat solidaire. Et en fait, on se rend compte que cette campagne-là, finalement, elle porte un certain engouement, en tout cas, qu'elle vient poser des choses qui, par exemple, la suppression du CESEDA et pas sa modification, voilà, c'est quelque chose qui au final, plein de personnes se disent, ben oui, en fait, oui, évidemment, c'est logique. Et voilà, donc pour nous, en tout cas, ça a été vraiment un succès, cette campagne-là. Après, les personnes que ça a touchées, c'est les personnes qui sont déjà sensibilisées. Cette campagne-là, elle n'avait pas l'objectif d'aller sensibiliser ou en tout cas de convaincre des personnes qui partagent pas du tout nos idées sur les questions de politique migratoire. On a d'autres espaces, en fait, dans lesquels on va être investi par ailleurs pour lutter contre les préjugés. Mais voilà, du coup, c'était vraiment en tout cas, l'objectif, c'était d'essayer un peu, peut-être à certains moments, de tirer un peu vers le haut des revendications. Et on trouve que voilà, c'est plutôt réussi, que ça a un écho, en tout cas que ça rencontre un écho parmi les partenaires, parmi les personnes qui voient la vidéo, qui voient les outils de campagne. Donc on est plutôt satisfait.
Merci, on apprend plein de choses, en fait. C'est une campagne qui est très très riche de réflexions politiques. Arthur, peut-être en deux, trois mots pour compléter, si tu as besoin.
Non, j'ai pas. Enfin, effectivement, comme disait Lola, on savait pas trop ce que ça allait rencontrer comme écho dans la période, mais en fait, quand on a d'abord organisé des discussions plus larges avec des gens avec qui on travaille généralement dans nos mobilisations et nos luttes, en fait, ça a vraiment amené à des discussions à la fois intéressantes et finalement, effectivement, un certain enthousiasme justement de pouvoir discuter sur ce qu'on voulait, ce qu'on recherchait, et en plus dans ces discussions nous-mêmes, ça nous a pas mal permis aussi de faire avancer nos argumentaires, cette campagne, et de la construire dans ces échanges. Et après, comme tu disais, je pense que c'est ce qui nous a fait plaisir, c'est à côté dans les mobilisations internationales de sans-papiers des deux dernières années, là, de voir que ça avait aussi là qu'il y avait aussi un écho, en fait, que ça parlait aux gens, d'avoir les gens ont besoin, enfin comme nous, en fait, d'avoir ces perspectives et ces de changements positifs, moins d'avoir dans le coin de la tête pour garder un peu l'envie de se battre.
Merci beaucoup. Merci à vous deux. Arthur, Lola, je rappelle que vous êtes membre de la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous et toutes les immigrés. Vous nous avez présenté la campagne Abrogeons le CESEDA. Merci à Will aussi qui a assuré la technique de cette émission. Bon courage pour la suite de cette campagne. J'espère qu'on pourra organiser un relais de cette campagne dans le Tarn et poursuivre, suivre un peu, même de loin, tout ce que vous faites, et puis peut-être tisser des liens localement avec la FASTI. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Je suis comme le vent, expulsez-moi. J'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut, expulsez-moi. Je siffle faux, expulsez-moi. Il paraît que chez toi, expulsez-moi. Ouvert sont les bras, expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte.
C'était une émission autour de la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec toutes et tous les immigrés. Une émission proposée par Bérangère et enregistrée le 24 juin 2021. Retrouvez la FASTI sur internet www.fasti.org. Bonne continuation sur Albitsis.
Il était une fois, expulsez-moi, chez toi c'est chez moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas. À comme ça. Je t'invite chez toi. Quand il n'y aura plus que moi, je m'expulserai. Expulsez-moi. 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 Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte.